chronique de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
La chronique de Lydia Arambourg, peintre du XXe siècle, est aujourd'hui consacrée à Hans Hartung.
Le geste libre d'Hans Hartung au sein de l'aventure abstraite. Figure pionnière de l'abstraction lyrique, Hartung est reconnu comme le père du tachisme. Il est à l'origine de l'abstraction gestuelle qu'il a contribué à imposer sur la scène artistique française après 1945. Hartung est né à Leipzig en 1904 dans une famille de médecins, musicien amateur dont il hérite une sensibilité musicale et une curiosité qui va du baroque à la musique dodécaphonique. Sa vocation précoce, dont il a lui-même raconté la genèse, s'enracine dans l'instinct, la fulgurance et le signe. Tout commence dès sa petite enfance. Il est âgé de 6 ans. Il raconte. « Sur un de mes cahiers d'écolier, j'attrapais au vol les éclairs dès qu'ils apparaissaient. Il fallait que j'aie achevé de tracer leurs zigzags sur la page avant que n'éclate le tonnerre. Ainsi, je conjurais la foudre. Rien ne pouvait m'arriver si mon travail suivait la vitesse de l'éclair. Ils m'ont donné le sens de la vitesse du trait, l'envie de saisir par le crayon ou le pinceau l'instantané. Ils m'ont fait connaître l'urgence de la spontanéité. La passion du dessin ne le quittera plus. Il fait ses études de lettres classiques, de philosophie, d'histoire de l'art, à Bâle, Leipzig, Dresde et Munich. Dès 1922, apparaissent les tracés noirs et les taches colorées constitutives de sa pratique qui se développera entre volonté et hasard. « Vous faites encore vos horribles taches d'encre pour former le sujet ?» grondent ses professeurs. « J'aimais mes taches. Ces taches qui, peu de temps après, devaient demander leur autonomie et leur liberté entière. Quelle joie ensuite de les laisser libres de jouer entre elles, d'acquérir leur propre expressivité, leur propre relation, leur dynamisme sans être asservi à la réalité. Le jeune Hans se passionne pour l'astronomie et construit son propre télescope grâce auquel il observe des fragments du réel, dont l'apparence abstraite anticipe sur ses futures préoccupations plastiques. Il s'intéresse aussi à la photo qu'il pratiquera toute sa vie, un complément indispensable qui lui permet de fixer l'éphémère, des portions de la réalité visible à l'œil. Son enthousiasme pour Rembrandt décide de son choix. Je découvre que Rembrandt faisait aussi des tâches qui existent par elles-mêmes, par leur rythme, leur couleur, leur expressivité. Après, je sus que je serais peintre. Il n'a que 18 ans, et contrairement à Kandinsky et à Malevitch, se tourne immédiatement, instinctivement, vers l'abstraction. Ses aquarelles informelles portent les prémices de la spontanéité de son geste sous l'influence des expressionnistes allemands. Pour mes premières aquarelles abstraites réalisées à Dresde en 1922, j'avais acheté une de ces petites boîtes de couleurs à l'aniline, plus pure et plus intense. La tâche y devenait libre. Elle s'exprimait par elle-même, par sa forme, par son intensité, par son rythme, par sa violence, par son volume. Dès 1930, le langage d'Hans Hartung est dans l'autonomie de la couleur et du graphisme noir. Entre maîtrise et vitesse, son geste expressif ne cessera de s'enrichir en une 60aine d'années où chaque expérimentation agit sur la pratique de ses différentes techniques. Peinture, encre, dessin, gravure, photographie, pour lesquelles il s'invente des outils, de larges brosses, des pistolets et aérographes, des rouleaux de typographe, et recourt à des matériaux nouveaux, les peintures vinyliques et acryliques. Le peintre et l'homme ne font qu'un dans leur engagement pour une vie sans compromission. Pour Hartung, la liberté est la réponse à son destin qui refuse la fatalité. Il parcourt l'Italie à bicyclette et arrive à Paris en 1926, où il séjourne jusqu'en 1931, entrecoupé de voyages en Hollande, en Belgique. Il multiplie les copies dans les musées, s'intéresse à Matisse, Picasso, Rouault, Cézanne, Van Gogh. En 1929, Hans a rencontré une jeune peintre norvégienne, Anna Eva Bergman, qui l'épouse. Commence une période expérimentale et d'errance pour le couple pendant la lente montée du nazisme qu'il combat. Hans et Anna Eva vivent dans une île au sud de la Norvège, puis à Fornell, un port de pêcheurs à Minorque. Hans y fait bâtir sa première maison selon ses propres plans. Un grand cube blanc dont il reprendra l'idée 40 ans plus tard, lorsqu'entre 1970 et 1973, il fera construire à Antibes, à partir de ses plans, sa villa et les ateliers respectifs pour lui et sa femme. La fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman y est installée aujourd'hui, dans le champ des Oliviers. À chaque atelier nouveau correspond une étape nouvelle. À Paris, où il s'installe en 1935, après avoir fui Berlin pour échapper à la police par son refus d'obtempérer à un art de propagande, il revient à ses essais de jeunesse. Jusqu'à la fin des années 30, ses taches d'encre présentent toutes les caractéristiques de son graphisme, servi par une maîtrise technique où son improvisation est en liberté surveillée. Sa volonté irréversible de liberté le pousse à s'inscrire sur la liste des volontaires contre l'hitlérisme et à la fin de 1939 à s'engager dans la Légion étrangère, après s'être remarié en juillet avec Roberta González, la fille du sculpteur Julio González, ami de Picasso. Hartung a divorcé d'Anna Eva Bergman, qui est retournée vivre en Norvège. Créateur à la stature exceptionnelle, Hartung n'a jamais dévié de ses engagements. Il pousse son combat dans ses limites ultimes. La démobilisation le mène dans le Lot avec la famille González. Avec l'occupation de la zone libre, Hartung fuit en Espagne, aidé par Picasso, puis est incarcéré dans les prisons franquistes avant de rejoindre une seconde fois la Légion. C'est lors de l'attaque de Belfort que, gravement blessé, il doit être amputé d'une jambe. De retour à Paris fin 1945, il recommence à peindre et est naturalisé français. Hartung refuse de toutes ses forces un destin inflexible. Peindre exige une énergie dispensée par son sens de la liberté. Rester libre d'esprit, de pensée, d'action. Ne pas me laisser enfermer ni par les autres, ni par moi-même. Telle est sa devise. En dépit de l'absence de reconnaissance entre 1921 et 1945 due à son isolement, l'œuvre prend sa place. Le destin veille et lui réserve un éblouissement providentiel avec la rencontre fortuite avec sa première femme, en 1952, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui présente une rétrospective de Julio González. Après avoir divorcé chacun, Anna Eva s'était remariée en 1944, en Norvège, il se remarie en 1957. À cette époque, Hartung s'impose comme le précurseur de l'action painting de Pollock, de Koenig, Klein et de l'abstraction lyrique qui commence à être reconnue en France. Une première exposition personnelle à Paris en 1947, Galerie Lydia Conti, le révèle au public. Avec 13 toiles datées entre 1935 et 1947, d'une intensité tragique, comme l'écrit Charles Estienne. Il participe aux expositions collectives qui imposent l'abstraction lyrique aux côtés de Mathieu, Brienne, Vols, Schneider, Soulages, Riopel. Il participe au Salon de mai, vitrine de toutes les avant-gardes.
Thank you.
Hartung peint et dessine. Des taches et des formes grises. Un trait solide, en claillonnage, amorce une nouvelle orientation. L'élégance du trait, appuyé, ne ressemble à aucune autre écriture. Les masses ponctuent la surface, tandis que les lignes noires achèvent la composition. Le geste modifie le graphisme, qui évolue sous l'influence de médium. La largeur du trait évoque des poutres qui structurent ces toiles jusqu'en 1955. Dans les années 60, Hartung pousse toujours plus loin ses investigations dans l'informel. Son esprit pionnier, toujours aussi offensif, il expérimente les couleurs vinyliques qui sèchent rapidement et que l'on peut diluer. Hartung peint directement sur la toile et réutilise les mêmes gestes nés de son travail de la gravure en recourant au rouleau et coïncide avec l'agrandissement du signe. Il raye de manière répétitive la couche picturale. Des incisions filiformes contrastent entre elles, tandis que des jaunes, des oranges, des bleus, des blancs éclatent sur un fond noir. Le geste est tout à la fois libéré et retenu, grâce aux outils qu'il teste pour multiplier les effets graphiques. Il se fabrique des balais faits de genêts ancrés qu'il fouette sur la toile. Le geste plus ample déborde de la toile, comme chez Pollock. La violence se lit dans la rapidité des griffures inscrites sur la surface, auparavant pulvérisées par un pistolet à peinture qui dispense un halo libre de tout signe. Inventeur, Hartung se donne les moyens de son expression. La sulfateuse pour projeter la peinture, le tuyau d'arrosage qui projette les couleurs sur la toile. Son œuvre refuse toute référence au monde extérieur, comme tout état d'âme. Nous entrons dans l'inconnu, dans la zone du pas encore créé, dit-il. Dès ses débuts, Hartung, qui refuse tout titre, adopte un principe rigoureux. Une lettre indique la technique. T pour toile, G pour gouache, P pastel, C charbon, suivi de l'année, de la réalisation de l'œuvre, puis d'un numéro. En 1960, il est lauréat du Grand Prix international de peinture à la Biennale de Menton. 1970, c'est le Grand Prix des arts de la ville de Paris qui lui est décerné. En 1977, Hans Hartung est élu à l'Académie des Beaux-Arts. Dès 1957, des expositions rétrospectives rendent hommage à ce peintre majeur du XXe siècle. Il s'éteint le 7 décembre 1989. Ses cendres sont dispersées dans la Méditerranée. Son ultime message : l'art me paraît être un moyen de vaincre la mort.